Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y aura 100 ans samedi, un attentat contre l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie déclenchait ce qui allait devenir la Grande Guerre. Tout à l'heure, dans sa rubrique Retour aux origines, Franck Ferrand reviendra sur l'attentat de Sarajevo. Bonjour Franck.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. En effet, retour aux origines de la Première Guerre mondiale à la fin de cette émission. C'est une demande de Nicole qui nous a posé la question via Facebook. Alors nous célébrons sur toutes les ondes ce centenaire depuis au moins 6 mois déjà, mais c'est vrai que le véritable anniversaire ne va commencer qu'après-demain.
Mais pour le moment, c'est de théâtre que vous avez choisi de nous parler.
Oui, nous en parlons avec Pierre Baron aujourd'hui, à l'occasion de la sortie d'un nouveau numéro d'Historia, qui titre sur le théâtre en général et les bouffons en particulier, de Molière au Festival d'Avignon. Il risque d'être un peu bousculé cette année, le fameux festival. Bon, ça n'empêche pas de le célébrer, bien au contraire.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Les fidèles d'entre les fidèles le savent bien, j'ai un rapport assez particulier à l'année 1897. Il s'est passé tellement de choses. J'avais envie, quand j'étais, il y a longtemps, hein, ça, je n'ai jamais été au bout de mon idée, peut-être que ça viendra un jour si j'ai le temps, j'avais envie d'écrire une année, un livre qui s'appellerait justement 1897, où on évoquerait tout cet extraordinaire bouillonnement de découvertes, d'événements. C'est l'année de la mission marchand, c'est l'année de l'incendie du bazar de la Charité, bien entendu, qui va créer un véritable choc à Paris. Vous avez l'essai de Clément Ader aussi, avec son avion 3, hein, la première fois qu'un avion va décoller. On est au temps heureux de la Belle Époque, dans une Troisième République triomphante en dépit du récent scandale de Panama et de l'affaire Dreyfus. Le président de la République à l'époque, en 1897, s'appelle Félix Faure. Il a été reçu en août à Saint-Pétersbourg pour renforcer l'alliance franco-russe. Quand je vous parle d'un bouillonnement, et il faudrait, là je ne vous parle que de ce qui se passe en France, mais dans toute l'Europe, tout est en train de changer. Cette année 1897, dites-vous qu'elle va se clore en beauté par une des représentations les plus marquantes de toute l'histoire du théâtre. Je veux parler de la première d'une nouvelle pièce en 5 actes et en vers d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Alors, faut imaginer ce que ça peut être que le théâtre à l'époque. Évidemment, il n'y a pas de télé à l'époque. Bon, ça, c'est une évidence, mais il n'y a pas non plus encore de cinéma. On est au tout début. Tiens, entre parenthèses, première séance de cinéma de 1897. On est vraiment dans une époque dont la distraction majeure est le théâtre, avec celle qui est l'icône du théâtre à l'époque, Sarah Bernhardt, bien entendu. Il y a eu cette espèce de soirée incroyable qu'on a appelée le triomphe de Sarah Bernhardt en décembre de l'année précédente, décembre 1896. Et bien cette fois, en décembre 1897, dans son propre théâtre, dans son théâtre de la Renaissance, Sarah Bernhardt joue une pièce sociale, une histoire de grève qui tourne mal, une pièce d'Octave Mirbeau, Les mauvais bergers. Le théâtre est sur tous les fronts à l'époque. Il faut dire, il y a un théâtre d'avant-garde, bien entendu, d'avant-garde, à la fois poétique et symboliste, qui est incarné par Luniepo. Il y a le vaudeville, bien entendu, avec Maurice Donnet, Abel Hermant, etc. C'est l'année 97, l'année de l'hôtel du libre-échange de Feydeau. Et puis, des drames historiques. On reprend la jeunesse de Louis XIV, notamment de Dumas, etc. Le grand spectacle qu'il faut voir cette année-là, c'est le Tour du Monde en 80 jours, enfin, etc. Et puis, au théâtre de la Porte Saint-Martin, on monte une pièce, mais alors une pièce d'un nouveau genre. La pièce va donc être lancée en décembre 1897. On peut dire qu'elle n'appartient à aucun de tous ces genres dont je vous ai parlé, ou plutôt, si on regarde d'ailleurs de très près, elle appartient à tous ces genres. C'est pas une pièce politique, quoi qu'il y soit question de patriotisme. C'est pas une pièce d'avant-garde, même si la poésie de cette pièce a tendance à se faire extraire. même et ressuscite en quelque sorte le romantisme d'un Victor Hugo. Il y a de la drôlerie, du grand spectacle, mais avec un degré d'exigence très supérieur à ce à quoi les spectateurs sont habitués à l'époque. Voilà ce que nous dit Gérard Boer. La bourgeoisie française, on est 1897, c'est l'époque du triomphe de la bourgeoisie. Elle est absolument au pouvoir en France à l'époque. La bourgeoisie française, impatiente d'on ne sait quoi, se lassait doucement de ses complications sentimentales sur lesquelles Maupassant et Bourget avaient versé tous les baumes et toutes les amertumes du cœur. Et le théâtre libre, ses âcres vérités. Elle attendait une aventure. Elle attendait un souffle neuf. C'est alors qu'on annonça dans les journaux la prochaine création, à la Porte Saint-Martin, d'un autre drame en cinq actes et en vers, Cyrano de Bergerac, par Monsieur Edmond Rostand. Qui est-il, cet Edmond Rostand? À l'époque, personne ne le connaît. Il est tout jeune. En 1897, il a 29 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une récente émission avec Christophe Maury, je vous racontais la première du Cid et je vous disais que le Cid avait été créé alors que, justement, Corneille avait 29 ans. Et que, pour lui, ça avait été un changement, un basculement total. Le triomphe, le succès phénoménal du Cid avait totalement fait basculer la vie de Corneille. Eh bien, on peut dire que le triomphe de Cyrano va faire basculer la vie d'Edmond Rostand incontestablement. Edmond Rostand était né à Marseille dans un bon milieu. Son père était dans la bourgeoisie négociante et bancaire. On est chez des gens très cultivés. Il fait des études classiques d'abord au lycée de Marseille. Au moment de la commune, il quitte Marseille, il s'en va à Luchon avec ses deux cousines. C'est là qu'il va commencer à écrire, d'ailleurs. Il fera de bonnes études à Paris, au collège Stanislas, évidemment, enfin, vous voyez le genre, si je puis dire. Et puis, très tôt, très vite, et bizarrement très bien, il écrit d'abord une pièce, Les Petites Manies, une nouvelle, Mont la Bruyère. Il va essayer de caser, si je puis dire, ses pièces, ses nouvelles. Et il va monter un vaudeville qui s'appelle le Gant Rouge, alors qu'il n'a que 20 ans. Ça n'a pas de succès du tout. Il faut vous dire qu'à l'époque, il est très amoureux. Il a rencontré à Luchon, justement, la petite fille d'un maréchal d'Empire, du maréchal Gérard, le héros de Wagram, qui elle-même, du reste, est la filleule du grand poète de l'époque, de celui auquel se réfèrent tous les apprentis rimeurs, le comte de Lille. Elle s'appelle, Gérard évidemment, c'est son nom de famille, elle s'appelle Rosemonde. Rosemonde Gérard, ils vont se fiancer en 1889. Ils se marieront l'année suivante à Saint-Augustin. Si je puis dire, tout va toujours bien. Alors, il faut imaginer ce à quoi ressemblait l'hôtel particulier de la rue Fortuny où vit le jeune couple avec les deux enfants qui vont leur naître, hein, Maurice Rostand, évidemment, et puis, évidemment, le futur grand savant, ce personnage extraordinaire. On a un peu perdu, évidemment, ce qu'a pu être cette vie de la belle époque. Mais il faut imaginer qu'on est dans une espèce de bouillonnement intellectuel, de goût de l'ancien et en même temps d'invention de la nouveauté. Enfin, tout ça est extraordinaire. En 1889, Edmond Rostand publie un premier recueil poétique, Les Musardises. Alors, je vous passe sur tous ses essais. La Comédie Française lui refuse les deux Pierrot. Il va représenter les romanesques l'année suivante. Il va obtenir de Sarah Bernhardt, s'il vous plaît, qu'elle crée La Princesse Lointaine en 1895. C'est un fiasco, c'est pas grave. On recommence en 97 avec La Samaritaine, donc une pièce en vers très élégiaque, comme ça inspirée d'un thème biblique, évidemment, qui va avoir un certain succès. Mais ce succès-là, le succès de La Samaritaine avec Madame Sarah, n'est rien à côté de ce qui nous attend maintenant.
Écoutez sur Europe 1 Jean-Claude Petit, extrait de la bande originale du film Cyrano de Bergerac qui est sorti en 1990. Et nous retrouvons Franck Ferrand qui nous parle de théâtre, de la première de Cyrano de Bergerac.
Alors pourquoi ce jeune Edmond Rostand a-t-il eu l'idée de s'attaquer à Monsieur Savinien de Cyrano, qui est un vrai personnage, hein, évidemment, personnage extraordinaire, bretteur, rebelle à toutes les disciplines, une espèce de coureur d'aventure et de rimeur par ailleurs. Vous savez qu'il avait imaginé ce célèbre voyage dans la Lune, etc. La Monnoye nous dit « Bergerac était grand ferrailleur, son nez qui l'avait tout défiguré lui a fait tuer plus de 10 personnes, il ne pouvait souffrir qu'on le regarda et il faisait mettre aussitôt l'épée à la main. » Voilà, sans doute l'anecdote qui a retenu l'attention d'Edmond Rostand, qui s'est dit « Voilà, c'est un trop beau personnage, cette espèce de bretteur, de ferrailleur du XVIIe siècle et qui en même temps est un homme de littérature, un homme de théâtre qui a ce complexe physique. On raconte toujours cette anecdote hein, où on lui avait envoyé à la porte de Nesle 100 spadassins pour le tuer. Le bibliophile Jacob dit « Cyrano n'hésita pas à se jeter au milieu des assassins, il en tua 2, il en blessa 7, il mit en fuite tous les autres. » Oh bah ça faisait une scène de théâtre toute trouvée, bien entendu. Il manquait quand même une chose. Edmond Rostand s'est dit « Mais il me faudrait une belle histoire d'amour. » Alors cette histoire d'amour, il l'a découverte lui-même à l'été 1895 à Luchon, avec un jeune homme qui était très amoureux d'une jeune fille, mais la jeune fille en question répondait pas à ses attentes. Ça arrive malheureusement très souvent, ces histoires-là. Gérard Boer nous dit « Mais Rostand demande à ce jeune homme, mais que lui dites-vous donc ?»« Je lui dis que je l'aime, » répond le jeune homme. Bah, « Et puis ?»« Bah, je recommence. » »« Et enfin ?» Ah, c'est tout. Mais quand elle vous aimera, ce sera suffisant, lui dit Rostand, qui ne savait prononcer qu'un mot pour exprimer ce qu'il pensait. Il pleut. Dites, il pleut, a conseillé la Bruyère. Mais ce conseil ne vaut pas en amour, surtout avec une précieuse. Le poète l'assura, nous dit Boer, et commença de lui faire un cours pratique de beau langage, la carte du tendre. Il fut épelé jour après jour, car chaque matin, l'amoureux venait demander au poète les mots qu'il dirait le soir. Ah ben là, on l'avait, la trame, on l'avait, l'idée de cette pièce, de ce Cyrano de Bergerac. Alors il a tous les éléments restants, il se met à travailler, et la pièce est montée à la rentrée, à l'automne 1897. Quand même, la direction du théâtre de la Porte-Saint-Martin a hésité, parce que le spectacle demandait 5 décors, une figuration nombreuse, il y avait une distribution invraisemblable pour une pièce de théâtre, 45 rôles, vous imaginez. Évidemment, on n'imagine plus de monter des pièces comme ça aujourd'hui. Bon, mais à l'époque, il y avait encore du théâtre à grand spectacle. Ça coûtait quand même très cher. Heureusement, il y a un homme qui a soutenu le projet depuis le début, c'est celui qui devait jouer Cyrano lui-même, c'est Coquelin, qui a été tout de suite amoureux du rôle, mais qui quand même, à mesure que l'on approchait de la première, commençait à se douter. D'ailleurs, un jour, il va dire, on est la veille de la répétition générale, il dit « Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer dans 10 jours ?» Oh, on dirait c'était peut-être une superstition de sa part, une façon de conjurer le sort. En attendant, tout le monde a le trac. Le jour de la couturière, Maria Legault, qui doit jouer Roxane, donc un rôle essentiel, est malade. Et c'est Madame Rostand qui a assisté à toutes les répétitions, qui connaît le rôle absolument par cœur. C'est elle qui va la remplacer au pied levé, juste le temps de la matinée, puisque le soir, Mademoiselle Legault, qui s'est peut-être posé des questions et qui s'est dit « Oh là là, je vais me faire souffler mon rôle », était là pour le jouer. Et voilà le grand jour, la première devant les invités. Il faut imaginer ce que c'est qu'une première de théâtre à la Belle Époque à Paris. Hein. C'est le grand événement, tout le monde est là. Le président du conseil Méline en personne, le ministre de l'instruction publique Alfred Rambaud. Enfin, tout le monde est venu, c'est bien simple. Mais pour être tout à fait franc, les 3/4 des spectateurs qui sont dans cette salle du théâtre de la Porte-Saint-Martin ne sont pas là pour la pièce de Rostand. Ils savent qu'après, il doit y avoir la première d'une grande revue de cabaret, boulevard de Rochechouart à Montmartre. Et la première, la grande revue commence à minuit. Donc on s'est dit, bah, on va aller assister à l'espèce de première de Rostand. Ensuite, on dînera sur le pouce et on ira au cabaret. C'est ça qui les amuse tous. Beaucoup d'entre eux, nous dit Boer, attendaient plus de plaisir de cette frivolité de cabaret que de 5 actes en vers sur Cyrano de Bergerac. Et ils escomptaient le moment où du boulevard Saint-Martin, ils pourraient enfin et en hâte monter boulevard de Rochechouart. Alors arrive, vous savez comment c'est, on frappe les 3 coups, le rideau se lève, il y a tous les critiques dans la salle bien entendu, il doit avoir peur Rostand, surtout que sa pièce est tellement bizarre, elle est presque anachronique pour 1897, vous imaginez toute cette pièce en alexandrin, ça paraît fou. Premier acte, tout de suite, nous dit Gérard Bauer, le public entra dans le jeu, adopta Cyrano. Le premier acte n'est pourtant qu'un acte d'exposition. Mais d'emblée, Rostand y affirmait sa maîtrise d'homme de théâtre, déployait cette fantaisie, cette souplesse poétique où résonnait en frais écho le cliquetis de Banville, l'accent picaresque du capitaine Fracasse et les ruissellements du vieil Hugo. Et au bout d'un certain temps, c'est-à-dire à peu près au milieu du deuxième acte, ça devient un phénomène. C'est-à-dire que chaque tirade est acclamée. Vous avez le public qui se lève et qui applaudit pendant 5 minutes après chaque grande tirade. Ça paraît incroyable. Au troisième acte, le président du conseil et le ministre de l'instruction publique n'y tiennent plus, ils vont carrément en coulisses, ils rejoignent Coquelin dans sa loge pour saluer l'interprète, ils essaient de trouver Rostand qui s'était fait petit, mais il le trouve dans les coulisses et il lui annonce qu'il va être fait tout de suite chevalier de la Légion d'honneur. Et allez, on continue, 4e, 5e acte, et pendant qu'on est encore en train de jouer la pièce, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, on est déjà en train de... La rumeur court déjà Paris et passe de théâtre en théâtre. On est en train de finir, parce que là, c'est très long, hein, Cyrano de Bergerac, donc les représentations sont en train de se finir un peu partout, et l'on apprend que c'est un triomphe, que la pièce a un succès phénoménal, et à la fin, c'est une espèce de, on dirait, de standing ovation. La salle entière est debout, acclame Rostand, etc. Sauf que Rostand est trop ému, il a disparu. On est obligé de faire une annonce. Mesdames et messieurs, la comédie héroïque que nous avons eu l'honneur d'interpréter devant vous et de monsieur Edmond Rostand, qui vient de quitter le théâtre. Eh bien, c'est pas grave, bravo, bravo. La foule continue à porter au nu celui qui, du jour au lendemain, est devenu le grand auteur de la Belle Époque. Il y avait longtemps, nous dit Bauer, qu'un tel triomphe n'avait rempli de sa rumeur la salle de la Porte Saint-Martin. 60 et des années, lorsqu'après la première d'Antony, les jeunes France avaient entouré Dumas, l'avaient porté en triomphe et s'étaient partagé comme relique les basques de son habit vert.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec vous, Franck Ferrand. Vous nous emmenez au théâtre cet après-midi à la première de Cyrano de Bergerac.
Oh, je ne résiste pas, on connaît ça par cœur, mais c'est un tel ravissement. Voilà la tirade d'aînés. En l'occurrence, c'est Jacques Weber qui s'y colle. Je vous propose de l'écouter maintenant.
Ah non, c'est un peu court. Jeune homme, on pouvait dire odieux bien les choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap.
Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux.
De quoi sert cette oblongue capsule ? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ?
Gracieux ! Aimez-vous à ce point les oiseaux ? Que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ?
Truculent, ça, monsieur ! Lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !»
Prévenant !
Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol.
Tendre, faites lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fade.
Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os.
Cavalier,
quoi l'ami, ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Oh, fatigue ! Aucun vent ne peut des magistrales.
Enrhumé tout entier. C'est un véritable festival, c'est un feu d'artifice cette pièce, avec un nombre de mots d'auteur incroyable. Et vous imaginez la délectation, la jubilation du public qui à chaque tirade et même quasiment à chaque vers trouve motif de satisfaction. C'est un triomphe. Catulle Mendès dit c'est plus beau que le 4e acte de Ruy Blas. Quant à Jules Renard, qu'on a vu pourtant très critique, rappelez-vous ce Jules Renard tellement vachard à tout propos, et bien là à propos de Rostand, il dit, il changera d'avis par la suite, mais en tout cas, le soir en rentrant chez lui, le soir de la première, il dit, C'est un homme de génie, voilà tout. Émile Faguet, dans son feuilleton des débats, écrit qu'Edmond Rostand ouvre le XXe siècle d'une manière éclatante et triomphale. Et dans l'Écho de Paris, on peut lire « Cette fois, Edmond Rostand dépasse toute prévision. Il s'élève d'un merveilleux coup d'aile et plane sur notre admiration. Quel triomphe en une soirée. Il a l'idée frappée dans le métal sonore de l'expression. Il a l'imagination et l'image qui s'envolent comme un oiseau vernicolore. Il a l'art dont les délicats sont ravis et charmés. Il a la force et la sensibilité, l'abondance et la variété, la fantaisie et l'esprit, l'émotion et l'éclat de rire, le panache et la petite fleur bleue. Il a la flamme, l'action et la virtuosité. Il a 29 ans. Et oui, c'est peut-être ce qui fascine le plus, évidemment, les spectateurs et les critiques de l'époque, que le très jeune âge de cet auteur qui a littéralement mis toutes les critiques à l'unisson. Dans la revue des Deux Mondes, Jules Lemaître écrira « Il manque donc à ce trop heureux ouvrage une des marques accessoires auxquelles on distingue empiriquement les œuvres inauguratrices. Il lui manque d'être incompris. » Et oui, car ce qui est incroyable, c'est que le succès est venu tout de suite, je vous ai dit, avant même la fin de la toute première représentation. Et croyez-moi, il y en aura des représentations, 399 autres, 400 en tout. Il repassera Coquelin, qui se demandait ce qu'il allait jouer dans les 10 jours. En 1897-18, la recette sera de 2 286 000 francs. C'est un chiffre qui, tout simplement, n'a jamais été atteint une autre fois par une autre pièce dans aucun théâtre en une seule année de représentation. C'est tout simplement incroyable. Or, la pièce, elle se vend dans le monde entier. Elle est traduite immédiatement dans de nombreuses langues. Rien qu'en France, elle va se vendre à 150 000 exemplaires, ce qui est un cas tout simplement unique à la Belle Époque. Alors, il y aurait toutes sortes d'incidents, de petites anecdotes à raconter. Madame Rostand raconte que Coquelin, un soir, s'est trompé. Il avait quand même 1400 vers dans son rôle, donc il en a oublié un ou deux. Alors, il y a un spectateur au premier rang qui dit « Monsieur Coquelin, au texte !» Et à ce moment-là, l'acteur s'interrompt, il dit « Monsieur, vous avez raison, je reprends. » Et le voilà qui reprend sa tirade. À la centième, au second entracte, on a distribué les fleurs du deuxième acte aux dames. Et tous les petits gâteaux de Raguenaud étaient vrais pour une fois et les spectateurs ont pu s'en délecter. Rostand va connaître un triomphe qui ne se démentira plus. Il va écrire « L'Aiglon ». Alors je dis ça, il y aura des pièces qui auront moins de succès. Hein. Je pense à Chanteclair par exemple. Mais « L'Aiglon » va de nouveau être un succès avec Sarah Bernard dans le rôle titre. Et en 1901, il est élu à l'Académie française à 31 an. Ce qui a valu au public parisien l'incroyable surprise de voir en 1903 un jeune académicien de 33 ans lire son discours de réception sous la coupole. C'est exactement ce qui était arrivé encore une fois à Corneille. Je pense qu'on peut dire que la première du Cid et la première de Cyrano de Bergerac auront été les deux sommets, les deux grands pics de l'histoire du théâtre en France.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous retrouvons Franck Ferrand et son invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia.
Alors Pierre Baron, un mot quand même de cette première de Cyrano qui a marqué les consciences. Il y a eu comme ça quelques représentations, pas tant que ça finalement, qui émaillent l'histoire de notre théâtre français. Je pense évidemment à une soirée qui a été un peu moins consensuelle, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était la célèbre bataille d'Hernani.
Elle l'a marqué aussi, d'une certaine manière, mais à coup de horion.
Oui, voilà, ça, c'était l'inverse.
Donc
ça.
Voilà, au lieu d'acclamer, c'était carrément, voilà.
Il y avait la moitié de la salle qui était pour, l'autre qui était voilà, contre, et ça s'est fini en pugilat.
Un pugilat général. Et entre les anciens et les modernes, c'était assez Théophile Gautier en tête d'ailleurs, oui. Qui n'était pas le dernier à donner du coup de poing, c'était assez grandiose.
Alors on est en Hernani, on est en 1830, c'est une pièce évidemment de Victor Hugo, c'est le premier grand drame. Enfin, c'est pas tout à fait le premier, mais c'est le premier qui va marquer, le premier grand drame romantique, oui. On apporte l'histoire romantique comme ça sur scène et on rompt avec toutes les règles habituelles du théâtre, ce qui a choqué bien sûr les gens un peu conservateurs, disons.
Oui, mais le théâtre, vous avez vous l'avez bien raconté, le théâtre c'est une série de ruptures. De toute façon, le théâtre n'est qu'une série de cassures par rapport au genre établi. C'est un art qui ne fait que se briser en progressant, si j'ose dire.
Alors, quand on regarde la couverture de ce nouveau numéro d'Historia, celui de juillet 2014, qui est en kiosque, j'imagine, là maintenant,
oui.
Le titre n'est pas ce qu'on attendrait. Vous dites « Ceux qui ont fait trembler les rois ». Mais de qui parle-t-on ?
On va commencer par parler des bouffons.
Mais voilà.
Parce que tout de même, c'est bien les premiers. Et avant les rois, Franck, il y avait les dieux. Parce que figurez-vous qu'il y avait aussi un bouffon des dieux de l'Olympe, un dénommé Momos. Je n'aurais pas me fâcher.
Il m'avait échappé celui-là,
Momos,
pour tout vous dire.
Je n'aurais pas me fâcher avec tous les Momos de la création, donc tous les Maurice, à qui je demande pardon d'avance. Mais Momos avait visiblement un don assez prononcé pour semer la zizanie. Et était tellement doué qu'il s'est fait très très vite virer, pour dire les choses un peu crûment, c'est-à-dire qu'on l'a prié d'aller faire rigoler ailleurs. Là où ça devient intéressant, c'est que le seul dieu qui le comprenait, chez qui il s'est installé, c'est Dionysos. Et Dionysos, comme vous le savez, c'est le dieu de la fête et de la beuverie. Ce qui signifie, en gros, pour faire une parabole à La Fontaine, que le bouffon s'accommode mal du pouvoir des dieux, mais très bien de la fête et du délire et de la farce. Voilà. Et ça, ça donnait le ton. Après, les dieux auraient eu les rois. Et je ne sais pas si vous avez une idée de l'ampleur du phénomène. Les bouffons, c'est 1200 ans dans l'histoire. Puisque ça commence avec Attila, les premiers à tester. Attila avait des fous, fous du roi.
Oui, c'est ça, parce qu'on dit bouffon, c'est bouffon, le terme fou, général, fou, c'est le roi, terme le générique. Dit, voilà. Mais en France, ce sont les fous de cour.
Voilà,
quoi,
fous de
ça,
cour,
hein.
Fous du roi. Donc Attila avait son bouffon qui faisait rire les convives, et le dernier bouffon connu de l'histoire de France, c'est l'Angélie, c'est Louis XIII. Donc nous sommes au XVIIe siècle. Alors, 5e, 17e, ça fait 1200 ans de bouffonnerie.
Il y a un chercheur très fin et extrêmement perspicace qui a étudié tous les critères auxquels appartenaient les bouffons. À partir de l'Angélie, il a travaillé sur Triboulet, sur Briandas, etc. Tous ces grands fous de cour. Et il s'est rendu compte qu'il y a un personnage qui, sans porter ce titre, portait tous les attributs du bouffon, depuis la tenue, les titres, les gratifications, les droits, les interdits, tout correspond, 21 critères qui tous sont cochés, c'est un certain Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. C'est-à-dire que il semblerait que Molière ait été le dernier bouffon, le dernier fou du roi, sans emporter le titre, bien entendu.
Sans emporter le titre. Mais je voudrais bien qu'on revienne deux secondes sur un bouffon célèbre dont le roi, d'après ce que m'a dit mon petit doigt, ne vous est pas étranger, c'est Triboulet, bouffon de Louis XII et de François Ier. Pourquoi je vous parle de Triboulet? D'abord parce qu'il a une fin magnifique. On avait interdit à Triboulet de dire du mal des courtisanes et de la reine. Et il a outrepassé l'ordre. Donc François Ier le condamne à mort. Mais enfin tout de même, Triboulet ayant quand même bien servi son roi pendant toute sa vie, François Ier lui accorde une faveur, c'est de choisir la manière dont il va mourir. Et Triboulet répond: j'ai bien réfléchi, sire, j'ai choisi de mourir de vieillesse. Bien sûr, François Ier éclate de rire et commue la peine en bannissement. Pourquoi je vous parle de Triboulet? Parce que c'était une école, Triboulet. Les fous du roi avaient des écoles. On y trouvait également des femmes. On les formait. On les formait au jeu d'esprit. On les formait à la répartie. Ils étaient les seuls, pratiquement pendant des siècles, à être autorisés à la cour à dire du mal, y compris du clergé. Il valait peut-être moins dire du mal de la favorite, mais on avait le droit de se moquer des évêques. Ce qui est une liberté incommensurable. Et surtout, c'était les seuls autorisés à parodier, à singer la personne du souverain. À l'imiter, même grossièrement, comme une espèce de parodie physique. Une pantomime, on va en parler tout à l'heure dans la Comédia d'Arte. Et ça, c'était le monopole du bouffon.
Alors, ce sont un peu les origines, effectivement, du théâtre, de la transgression aussi, car il y avait quelque chose d'étonnant avec ces fous du roi, c'est qu'ils avaient quasiment tous les droits. Ils pouvaient même aller s'asseoir sur le siège du roi, enfin des choses absolument qui auraient paru totalement impensables. Mais ils prenaient le mal sur eux, d'une certaine manière. Ils étaient comme les paratonnerres d'une société de cour qui avait besoin de ça, comme d'une soupape, en quelque sorte. Hein.
Puisqu'on parlait du théâtre, Franck, d'une certaine manière, ils avaient un peu aussi le même rôle que la tragédie grecque.
Oui, c'est ça.
C'est la catharsis.
La catharsis.
Comme on
peut expliquer
pas
à notre jeune public ce que c'est que la catharsis d'Aristote.
Pour les plus jeunes, on va l'expliquer. Alors la catharsis, c'est très simple. Tout ce qui est tabou dans la cité, le viol, l'inceste, on peut pas en parler. Et surtout, c'est quelque chose qui est le tabou absolu. Alors on va le représenter, la catharsis, c'est une espèce de purification sociale. Voilà. Le fait qu'on voit quelque chose d'abominable est censé, pour le citoyen grec, en tout cas y compris pendant des heures avec Eschyle, Épide, etc. et Sophocle, le laver en quelque sorte des interdits qu'il ne peut pas vivre. Eh bien, le bouffon, ça sert aussi à ça.
Alors le théâtre avait connu son apogée sous la Grèce antique, une forme de décadence assez intéressante sous la Rome antique, enfin bref, dans toute l'Antiquité il y a bien sûr des... Et puis à partir du moment où arrive le christianisme, alors là, terminé, il n'y a plus du tout de théâtre, évidemment. Le seul théâtre qui va exister pendant des siècles, ce sont ce qu'on appelle les mystères, on ne va pas s'appesantir là-dessus, mais ce sont des représentations religieuses qui peuvent parfois prendre un tour très théâtral avant la lettre, il faut bien le dire.
Oui, les mystères, c'est la représentation de la vie de Jésus et pour une grande part des saints, contrairement à ce qu'on pense, ils n'étaient pas joués. Loin s'en faut toujours sur le parvis des cathédrales. Toujours, hein. C'était un petit peu sauvage, où on pouvait. Et c'était du catéchisme de masse avant l'heure. C'est probablement...
Ça pouvait prendre la forme de grands spectacles.
Tout à fait. C'est probablement une des dimensions sacrées du théâtre, en tout cas, au Moyen-Âge.
Et puis, comme tout, le théâtre va nous venir, comme toutes les autres inventions, comme tous les raffinements de la Renaissance, il va nous venir de l'Italie, bien entendu, avec cette comédie italienne qui est une révolution totale et qui commence par enflammer les tréteaux des foires de toutes nos villes de France. C'est notamment ce dont vous parliez tout à l'heure, Pierre, la Commedia dell'arte.
Commedia dell'arte qui arrive en 1528. Elle naît, tout au moins, là. C'est une comédie au départ avec des masques. Il faut bien comprendre que la Commedia dell'arte, elle représente des figures. Elle ne représente pas des personnages, elle représente des caractères. Vous avez les Annies et les Vallées. Il y a Arlequin, il y a Scaramouche. On parlait de Molière, c'est Scapin. Vous êtes d'accord? On a les Vieillards, Pantalone. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est l'idée. Cassandre. On a les soldats.
Pantalone qui portaient des culottes longues, d'où le nom. Hein.
D'où le nom Pantalone. On a les soldats, qui sont un peu fanfarons, mais un petit peu peureux, c'est Matamor. Et on a les amoureux, qu'on retrouvera bien sûr chez Molière aussi, qui sont très ingénus, mais assez habiles, si vous avez remarqué, à tromper et à duper les vieillards. On a Colombine, une célèbre figure de la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, elle arrive en France essentiellement par Marie de Médicis, qui l'invite à Paris. On sait que Molière enfant assiste aux représentations de la Commedia dell'arte. Il en est évidemment imprégné. Et derrière la Commedia dell'arte, Molière va monter d'un cran, parler de rupture tout à l'heure, c'est que lui va laisser tomber les masques et il va s'attaquer directement au travers de son époque. Quand on a titré dans ce dossier « Ceux qui font trembler les rois », on a aussi, bien sûr, pensé à un scandale monumental qui est celui du Tartuffe. Puisque la représentation de Tartuffe crée un problème religieux au sein même de la cour du roi Soleil. La mère du roi Soleil avait pris le parti...
Anne d'Autriche
avait pris le parti des dévots. Molière, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, aurait durci un peu son texte. Et elle est donc, première victoire de Anne d'Autriche, elle le fait interdire. Le roi se retrouve déchiré entre l'autorité maternelle et les dévots, le parti des dévots, et son affection pour Molière. Il autorise la représentation privée du misanthrope, notamment chez Monsieur, le frère du roi, mais pas seulement.
De Tartuffe, en l'occurrence.
Tout à fait, pardon. Tout en, bien évidemment, rentrant pieusement dans le rang. Avec un malentendu terrible, c'est que la cour ne se moque pas de la religion. La cour se moque
des faux dévots.
Voilà, des austères, de ceux qui s'habillent en noir, qui font semblant. C'est-à-dire que la cour ne viendrait pas une seconde à l'idée d'être athée, on n'en est pas là. Mais elle a horreur de l'hypocrisie et de cette espèce d'austérité ostentatoire d'un certain nombre de dévots de la cour.
Là, le théâtre acquiert une toute autre dimension qui redevient une dimension politique ou, puisque vous nous avez donné la définition, je peux maintenant employer le mot, une dimension cathartique. Et ça, c'est quand même le privilège des grands auteurs du début du XVIIe siècle. Le plus grand de tous, c'est Corneille, bien entendu, mais il n'est pas le seul. Ils étaient quand même toute une petite cohorte. Ils vont donner à la comédie, notamment ses lettres de noblesse, à travers la comédie de mœurs, à travers la comédie de caractère. Le théâtre devient un théâtre de texte. Il est écrit, on récite maintenant, si l'on peut dire, des textes. Ça devient un art, tout simplement. Et le cadre dans lequel cet art-là va pouvoir s'épanouir s'appelle la Comédie française.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Extrait des... les comédies ballets de Lully sur Europe 1 et Franck Ferrand est toujours en compagnie de son invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia.
Alors Pierre Baron, je parlais tout à l'heure évidemment de Cyrano de Bergerac. Ce qui est magnifique dans le premier acte de Cyrano, c'est cette mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a un théâtre représenté sur la scène du théâtre, et le théâtre en question, alors qu'on est en 1897, c'est évidemment un théâtre des années 1640, du temps de Cyrano. Et alors on voit à quoi ça ressemblait, c'est-à-dire c'était un jeu de paume au départ, généralement des grandes pièces rectangulaires, avec une scène à un bout, les entrées, ce qu'on appelait les guichets à l'autre, et puis des galeries le long où s'installaient les belles dames en quelque sorte. Au parterre, on restait debout. Il n'y avait pas de siège. Hein. Il y avait des sièges, en revanche, sur la scène pour les marquis, pour les gens qui payaient très cher ou qui en avaient le privilège et qui pouvaient assister au spectacle carrément depuis le plateau, d'une certaine manière. Tout un système d'éclairage, des déflecteurs et tout, ça devait être très compliqué, un peu dangereux d'ailleurs. On donnait les représentations au milieu de l'après-midi à l'époque, même si c'était des salles qu'il fallait quand même illuminer. On était rentré chez soi vers 20h, 21h au dernier délai à l'époque. Ça, c'est le théâtre en France. Quand on traversait la Manche, il y avait un autre théâtre qui existait depuis plus longtemps.
Ah oui, le théâtre élisabétain qui, lui, avait d'autres traditions, théâtre de Shakespeare notamment. On pense au Globe, c'était son fameux théâtre, qui n'avait pas du tout cette structure-là. C'est une structure semi-ouverte. On rentre dans le théâtre un peu comme dans les arènes. Par plusieurs entrées successives possibles, des travées, on peut en sortir. Ce qui implique une construction dramatique différente. Franck, voilà. Shakespeare n'écrit pas de la même manière, car d'une certaine manière, il résume un peu à chaque acte ce que vous avez pu manquer dans l'acte précédent, parce que bien sûr, les gens de la rue, eh ben, ils ont du travail, ils reviennent 40 minutes après. Avec des nœuds. Faut qu'on puisse leur raconter l'histoire.
C'est ça, des nœuds dramatiques successifs. Tout à fait. Qui font d'ailleurs beaucoup penser, j'ai envie de dire comme par hasard, aux séries anglo-saxonnes actuelles, aux séries télé, hein. C'est-à-dire qu'il faut des acmés, comme on dit, hein, des moments dramatiques forts toutes les 7 ou 8 minutes. Ce qu'on n'a pas dans le théâtre français, qui était plus un théâtre de progression, puisque le public est en quelque sorte captif pendant les 2 ou 3 heures de la représentation. Avec des entractes quand même. Il faut dire un mot des entractes
parce que c'est une jolie histoire. À partir du moment où le théâtre commence à se jouer, non plus dans la rue, mais dans des salles, au départ, il se joue avec des chandelles de suif. Ces chandelles de suif, elles ont un grand désagrément. Elles dégagent une fumée épaisse et âcre. Et en fait, elles ont une durée de vie d'environ une vingtaine de minutes. Ce qui signifie en gros que ça, pour le dramaturge, ça fait pas plus de 400 vers. Déjà, pour commencer, faut être un peu dans le format. Sinon, comme il faut changer tous les luminoirs, de toute façon, on peut pas dépasser ce temps-là. Et puis l'entracte, il a plein d'autres fonctions, Franck. On parlait tout à l'heure des tabous.
Vide les baignoires et remplis les lavabos.
Voilà. On parlait des tabous. Comme on n'a pas le droit de parler des viols, comme on n'a pas le droit de parler de crimes, ce qui n'a pas le droit d'être représenté sur scène était dit par l'auteur entre les actes, puisqu'il ne pouvait pas le représenter. Il fallait bien évidemment que les machinistes, c'était les débuts, commencent à changer les décors.
Voilà. Le théâtre à machine.
Le théâtre à machine, oui, ils arrivent assez vite finalement. Voilà à quoi servait l'entracte. Mais je trouve que cette notion de 400 vers avant que les bougies s'éteignent est très belle, très humaine.
Alors pour rester en Angleterre et dans ce théâtre élisabétain qui a toutes les poésies et tous les charmes, dites-nous un mot de cette pièce qui fait frémir aujourd'hui encore les comédiens. La pièce de Sir Laurence Olivier, si je puis dire Macbeth.
Bien sûr. Macbeth, c'est une terreur. C'est un mot tabou chez les comédiens. Dieu sait qu'ils ont beaucoup de superstitions. Mais alors, celle-là, elle est terrible. Pendant des siècles, on ne prononçait pas le nom de la pièce. On l'appelait la pièce écossaise, où on disait même M, ce qui n'avait rien à voir avec le mot de tout à l'heure, de Cambronne. Pourquoi? D'abord, les troupes qui ont joué Macbeth pendant quasiment 2 siècles, 17e, 18e, ont connu des déboires successifs majeurs. Des faillites, des incendies, des vols, des bannissements. Première chose, donc déjà pas rendu la pièce très très, voilà, ça n'engageait pas. Pour autant, Macbeth était une pièce très populaire. Ça veut dire que quand on commençait à avoir des problèmes d'argent, hop, on mettait Macbeth parce qu'on savait que le public venait. Ce qui signifiait donc que la compagnie avait des soucis. C'était une espèce de détresse financière. Troisième raison, comme vous le savez, Macbeth est une pièce avec une distribution très petite, enfin c'est limité on va dire, et courte. Ça veut dire que souvent, vous pouvez jouer Macbeth quand un comédien est tombé malade ou deux. Vous pouvez faire Macbeth parce que vous n'avez pas besoin d'être très nombreux. Donc pour l'ensemble des comédiens, quand il y en avait un qui était malade, c'était un signe qui portait malheur, et Macbeth est associé à la maladie ou à la ruine.
C'est curieux de voir à quel point les superstitions sont très présentes dans le monde du théâtre. Par exemple, il ne faut pas employer le mot corde. Ça tient au fait que les anciens machinistes étaient des marins.
Oui, hein, donc... ils avaient utilisé les superstitions des marins. Mais en fait, ça vient des menuisiers, des salles, qui avaient recopié, si j'ose dire, les peurs des marins. Vous savez que les marins, vous connaissez ça bien, vous, parlent de corde. On dit jamais le mot corde, instrument de supplice. On dit drisse, on dit auban,
oui, amarre, élin, on fait tout ce qu'on veut.
Donc évidemment, le mot corde est banni. Le verre, c'est une fausse superstition. On dit que c'est parce que Molière était en verre quand il a joué sa dernière pièce, Malade imaginaire, alors qu'en réalité pas du tout. On utilisait des oxydes de cuivre, vous savez, pour les teints, et que ces oxydes de cuivre rendez les comédiens malades et les intoxiquer. Voilà pourquoi le verre est proscrit dans les théâtres.
Et quand on jette à la fin, quand il y a une comédienne que l'on veut glorifier, on lui jette des roses, bien entendu, mais surtout pas de glaïeul.
Surtout pas de glaïeul.
Ouais,
parce que la tradition voulait que le patron de la Comédie française, à la fin d'une saison, lorsqu'il voulait renouveler un contrat, faisait porter une brassée de roses à la dame, à la comédienne. Mais comme les glaïeuls sont moins chers, quand elle voit les arriver une brassée de glaïeul, elle savait que le contrat ne serait pas reconduit. Donc, faut jamais offrir de glaïeul à une comédienne.
Ça est la même chose dans les radios, hein, je vous rassure.
Hein. Ah bah, si vous
pas de glaïeul. À cette saison-là, au mois de juin, je vous assure que les glaïeuls sont pas très bien vus. Alors, vous nous parlez de la Comédie française, j'en ai dit un mot tout à l'heure. C'est évidemment le grand théâtre français qui va ensuite servir d'exemple pour les troupes russes, autrichiennes, enfin dans le monde entier, on va envier cette troupe qui est la troupe d'État, qui aujourd'hui encore fait la gloire du théâtre français.
C'est le seul théâtre en France qui dispose d'une troupe permanente,
mais oui.
Je voulais quand même le dire. C'est tellement une institution nationale qu'en 1812, Napoléon, qui est en pleine campagne de Russie, on peut dire qu'il a quand même d'autres chats à fouetter, signe le 15 octobre un décret, qu'on appelle le décret de Moscou, avec 87 articles, vous vous rendez compte? Et qui est, à peu de choses près, Franck, le statut actuel de la Comédie française. C'est pour vous dire à quel point c'est une affaire d'importance, la Comédie française. Autre signe que c'est une affaire d'importance, si on remonte un tout petit peu le temps, le 3 septembre 1793, la Comédie, elle est fermée par le comité de salut public et elle va rester jusqu'au 31 mai 1799 fermée, comédien arrêté, voire même parfois un peu rudoyé, avant que la troupe ne se reconstitue, parce qu'elle a été aussi le symbole, à tort bien évidemment, de l'ancien régime pour les révolutionnaires.
Vous appelez l'article d'Hélène Thiers-Champ « Les 400 coups de la Comédie française » parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé dans cette maison qu'on appelle la maison de Molière, bien entendu. Elle a été comme une sorte de miroir et de reflet des heures et des malheurs de la société française, finalement.
C'est un miroir historique extraordinaire, la Comédie française. Pas seulement pour le... D'abord... Elle a été fondée, comme vous le savez, 7 ans après la mort de Molière, et on l'appelle tout de même la maison de Molière.
Mmh. Armande Béjart est à l'origine.
Bien évidemment. C'était sa femme, elle avait 20 ans de moins que lui, ce qui peut expliquer aussi qu'elle lui ait succédé. Mais pour autant, cette maison de Molière, elle renvoie peut-être à deux choses. Le génie, c'est beaucoup dire, mais cette espèce de culture française de la dramaturgie qui lui est propre. Il y a une école française du théâtre, comme il y a une école anglaise du théâtre. Et que la Comédie française l'incarne avec ses audaces, avec ses querelles, avec ses rigidités, mais aussi avec ce qu'on est obligé aujourd'hui d'appeler du patrimoine. Le patrimoine de la langue française, tout simplement.
Évidemment. Et de cette diction extraordinaire et de cette musique inimitable. Alors, il y a un théâtre dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est le théâtre plus moderne. J'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure à propos de ce qui se passait en 1897, mais il faudrait évoquer des noms extraordinaires, les Pitoëf, Louis Jouvet, etc. Bien entendu,
Jean Villard.
Et alors Jean Villard, qui dit Jean Villard dit Avignon. On parle beaucoup d'Avignon en ce moment. D'ailleurs, vous avez un entretien, c'est Véronique Dumas qui s'est entretenue avec le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Py, qui nous dit en juillet la capitale culturelle c'est Avignon. Il est un peu en danger, ce festival d'Avignon, cette année, avec l'affaire des intermittents du spectacle, évidemment.
La plupart des festivals d'été, on va bien voir ce qui va se passer, mais C'est vrai qu'il est un peu en suspens, mais des Avignon, il y en aura d'autres, des festivals d'Avignon.
En tout cas, Avignon, c'est à la fois le laboratoire d'un théâtre nouveau, il y a le in et il y a le off, bien entendu, c'est le théâtre populaire. Vous citiez le grand nom qu'il faut citer, auquel on peut évidemment, auquel on peut ajouter, bien entendu, celui de Gérard Philippe, c'est le théâtre populaire.
Bien sûr. Hein. Théâtre d'après-guerre, si j'ose dire, avec cette volonté très forte de reconstituer un théâtre, mais à dire pour le peuple, avec des visées sociales évidentes et même politiques, il y a aucun doute là-dessus, et qui prend très vite des chemins buissonniers au niveau idéologique. C'est-à-dire que la volonté de Villard de faire du théâtre populaire, y compris dans les quartiers, revient 50 ou 60 ans plus tard avec des troupes très souvent élitistes, très souvent abscons, hermétiques, qui rompt d'une certaine manière, Franck, avec la tradition première du théâtre, qui est un spectacle de rue. N'oubliez pas qu'au XIe, XIIe, XIIIe siècle, les batteleurs, c'est-à-dire les jongleurs, c'était des gens de rue. C'était des gens qui étaient capables de pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui les arts forains. Ah, des montreurs de bêtes, des acrobates, des cracheurs de feu. Et que ce théâtre-là, s'il renie ses origines-là, en se coupant de la rue et en se coupant du public populaire, d'une certaine manière, ce théâtre-là se renie aussi.
Le festival, nous dit Antoine de Beck, ne ressemble dans les pages d'Historia, ne ressemble pas aux autres, car il est devenu un point névralgique où peut s'opérer la rencontre de la création et de l'actualité, de la culture et des débats d'opinion, ô combien, du spectacle vivant et de ses résonances historiques. Et juste en dessous, vous avez un très bel article sur la restauration du petit théâtre du Second Empire, le petit théâtre de Napoléon III à Fontainebleau, qui, grâce à la générosité d'un grand mécène, vient de retrouver ses ors, ses splendeurs, ses velours natifs. C'est un bel endroit, et comme je dis souvent, mais ça n'est pas une blague, c'est vrai, il faut aller à Fontainebleau. Merci beaucoup, Pierre Baron. Le numéro 17 Historia de juillet 2014 et donc dans les kiosques de Molière au Festival d'Avignon. Vous y parlez de ceux qui ont fait trembler les rois.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Nicole qui vous demande de revenir sur l'origine de la Première Guerre mondiale et plus précisément sur l'attentat de Sarajevo, Franck.
28 juin 1914, ça va donc faire 100 ans exactement samedi prochain, cet assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand de Habsbourg. On connaît cette histoire hein, par cœur en tout cas. On a l'impression de la connaître. J'ai été surpris l'autre jour, je regardais sur la chaîne parlementaire un documentaire sur cet attentat, et magnifique documentaire d'ailleurs, et j'ai été surpris d'y découvrir moi-même des aspects que je n'étais pas certain de bien maîtriser. Alors, le contexte, vous le connaissez, la Bosnie-Herzégovine est une terre de l'Empire austro-hongrois, mais depuis très peu de temps, elle a été annexée en 1908 seulement, elle est peuplée pour une bonne moitié de Serbes, et ces Serbes, au lieu de regarder du côté de Vienne, ils ont plutôt tendance à regarder vers Belgrade. Et entre la Serbie, qui rêve de rassembler tous les Slaves du Sud et d'en faire un seul État, et puis l'Autriche-Hongrie, évidemment, qui, elle, maintient son pouvoir sur cette Serbie, les relations sont très difficiles. En 1913, déjà, la guerre a failli éclater, paradé à Sarajevo pour un archiduc autrichien, est donc devenu très dangereux, et s'est même perçu, disons-le, comme une provocation en ce 28 juin, jour du Vidovdan, qui est la fête nationale serbe qui commémore la résistance du peuple serbe au moment de sa défaite face aux Ottomans en 1389. Alors, François Ferdinand arrive à Sarajevo, la visite était annoncée depuis 3 mois, la veille, le parcours précis de la voiture impériale a été publié par la presse, vous avouerez qu'on a fait plus prudent. François Ferdinand doit se douter de ce qui se trame parce qu'il dit « ça ne m'étonnerait pas que quelques balles serbes m'attendent là-bas ». Voilà ce qu'il a dit à son aide de camp. Le dimanche 28 juin 1914, l'archiduc arrive à Sarajevo. Il doit assister d'abord à des manœuvres militaires. Puis le couple impérial va s'installer dans une voiture décapotable. On appelle ça un landau à cette époque. Et il est à peu près 10h du matin quand le cortège s'avance sur le quai Apel. Et là, il y a toutes sortes de conjurés qui se sont postés. Le cortège essuie un premier attentat. Une bombe lancée par un des conjurés nationalistes qui ont fait serment de tuer l'héritier de ce qu'on appelle là-bas la tyrannie habsbourgeoise. Seulement, bon, la bombe va rebondir sur la capote, elle explose au sol, elle ne blesse que des badauds ainsi que 2 officiers dans la limousine qui suit celle de l'archiduc. François Ferdinand est furieux, on sait qu'il va faire un bref passage à l'hôtel de ville et il exige en ressortant d'être conduit à l'hôpital auprès des blessés. Seulement ça, son chauffeur ne l'a pas compris. Il est donc dans le cortège et au moment où tout le monde tourne d'un seul coup à droite, eh bien, le chauffeur manque le virage. Il est obligé de faire une manœuvre, une marche arrière pour suivre les autres voitures. Or, le quartier est truffé de conjurés. Le plus proche est un certain Gabrielo Princip qui va brandir un Browning de 9 mm et qui saute sur le marchepied. Il tire à bout portant et il va tuer François Ferdinand et son épouse morganatique Sophie. Il est à ce moment-là 11h15 du matin. Comme on l'a dit souvent, les modestes coups de feu de cet étudiant serbe, qui mourra d'ailleurs tranquillement en prison, si je puis dire, de la tuberculose en 1918, les coups de feu de cet étudiant serbe vont faire quelques 10 millions de victimes du fait, on connaît cette histoire, de tout cet engrenage, hein, de cette espèce de jeu de domino des alliances européennes de l'époque.